Le journal est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Élections municipales en jeu national. Istanbul restera-t-elle aux mains de l'opposition? Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Turquie. Nous serons sur place dans un instant. Lire leurs mots pour rendre leur voix aux Palestiniens bombardés. C'est l'objectif d'une campagne française Voices of Gaza. Les vidéos sont partout sur Instagram. Ubi et Orbi, ces mots-là sont les plus attendus de la matinée. Le pape François préside actuellement la messe de Pâques, malgré un état de santé qui préoccupe les fidèles. Enfin, la trêve hivernale s'achève ce soir. 140 000 personnes sont menacées d'expulsion. Tonino Serafini, spécialiste du logement, est l'invité de ce journal. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 9h ce matin. 31 millions d'électeurs turcs appelés aux urnes pour choisir un maire. Scrutin municipal local qui revêt pourtant des enjeux nationaux. Avec ses 16 millions d'habitants, Istanbul est passé aux mains de l'opposition il y a 5 ans. Et aujourd'hui, le camp du président Erdogan entend bien la récupérer. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Vous êtes en direct d'Istanbul. Le scrutin s'annonce plutôt serré. Comment se déroule l'élection depuis ce matin ?
Écoutez, plutôt tranquillement, plutôt bien, le soleil est au rendez-vous, les électeurs aussi, dans le bureau de vote du président Erdogan sur la rive asiatique du Bosphore. C'est un arrondissement conservateur que l'opposition espère conquérir. Öcalay vient de glisser son bulletin dans l'urne quand je l'approche. Elle a voté sans hésitation pour le maire sortant, Ekrem İmamoğlu.
İmamoğlu va remporter ce scrutin, on l'aime beaucoup. Il travaille dur et surtout, il est honnête. Vous savez, Istanbul, c'est un grand marché, une ville riche et tout le monde veut la conquérir.
Et oui, la métropole brasse plusieurs milliards de dollars, c'est la moitié des recettes fiscales du pays, c'est un tiers de son PIB. Elle attise donc toutes les convoitises, au-delà du symbole politique pour Erdogan qui s'est juré de la reconquérir. Hüseyin, lui, est venu pour défendre ses valeurs, c'est important, dit-il.
Pour moi, c'est très important de voter. C'est pour la République, parce qu'il y a de plus en plus de fondations islamiques. Il faut gagner, et pas seulement İmamoğlu ici, mais gagner dans toute la Turquie.
Il y a une jeune femme voilée, accompagnée de sa mère, ne dit pas autre chose. Pour elle aussi, l'enjeu dépasse Istanbul, mais c'est le parti du président Erdogan qui doit gagner ce soir.
C'est très important pour nous. Ce ne sont pas seulement des élections municipales. C'est l'avenir politique de la Turquie qui est en jeu. Quand nous votons en Turquie, ce n'est pas comme en Europe. Dans les élections municipales, nous ne désignons pas seulement un maire qui doit ramasser les poubelles. Les candidats jouent leur avenir politique.
Voilà, particulièrement ici, hein, à Istanbul, où le maire sortant serait, en cas de victoire, un très sérieux candidat à la présidentielle de 2028.
Merci Marie-Pierre Véro, en direct d'Istanbul pour France Culture. Et j'ajoute qu'une personne a été tuée et 12 autres blessées dans des affrontements près de Diyarbakir, ville kurde du sud-est du pays. Des routes bloquées et des brasiers allumés hier soir à Tel Aviv. Des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien aux otages israéliens retenus par le Hamas. Ils sont encore 130 prisonniers dans la bande de Gaza. Et depuis une semaine, plusieurs artistes français ont commencé à poster des vidéos pour demander leur libération, ainsi qu'un cessez-le-feu et la protection de tous les civils, pas seulement les otages, hein, tous les Palestiniens enfermés et bombardés dans l'enclave. La campagne s'appelle Voices of Gaza et cherche à donner une voix à cette population que l'on n'entend pas ou très peu, car les journalistes internationaux, Étienne Monin, n'ont pas accès à l'enclave.
Maintenant, je déteste l'obscurité qui intensifie la peur, l'incertitude et le désespoir.
Camélia Jordana fait partie des figures de cette campagne portée par le collectif La Culture pour un cessez-le-feu qui cherche à réhumaniser les habitants de la bande de Gaza.
La souffrance des Gazaouis est insoutenable, mais leurs cris sont inaudibles.
Samia est membre du collectif.
Donc il est aussi de la responsabilité, presque du devoir de ceux qui ont la chance et le privilège d'avoir une voix, de se faire l'écho de ceux qui n'en ont pas ou qui sont invisibilisés ou réduits au silence.
Je m'interroge sur la différence entre moi et un mort. La perte de la sécurité, de vos espoirs et de vos rêves fait-elle de vous un mort ?
Derrière ces témoignages, il y a des victimes, des soignants, des anonymes. La vidéo de Maude Wheeler sera postée dans 10 jours. Cette comédienne fait entendre les mots d'une jeune fille qui a perdu sa famille.
Là, il ne s'agit pas d'interpréter, mais simplement de lire, de faire entendre, pour faire face à une sorte d'impuissance dans laquelle, en tout cas moi, je parle en mon nom, Moi, je suis plongée ces derniers mois. C'était la moindre des choses.
Le collectif avait déjà envoyé une lettre à Emmanuel Macron en décembre dernier pour appeler un cessez-le-feu. Pour l'instant, une quinzaine d'artistes français sont engagés. Une centaine de textes ont été collectés.
Et les négociations pour un accord de trêve doivent reprendre ce dimanche au Caire, toujours sous la supervision du Qatar et de l'Égypte. Du matériel ancien, mais toujours opérationnel, la France va livrer des centaines de blindés à l'Ukraine, ainsi que des missiles anti-aériens et anti-balistiques. Le ministère des Armées demande par ailleurs au groupe d'armement MBDA de constituer des stocks pour augmenter la production de munitions. Et de l'autre côté de la frontière, Vladimir Poutine prépare ses citoyens à une guerre qui dure. Il signe ce matin un nouveau décret pour la conscription de tous les hommes à partir de 18 ans. 150 000 citoyens russes sont appelés au service militaire obligatoire. Direction Rome, la traditionnelle messe de Pâques a débuté à 10h ce matin en la basilique Saint-Pierre. 30 000 fidèles sur place et 1 milliard de téléspectateurs qui scrutent le moindre geste du pape François. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
En direct de Rome pour France Culture, sur quel sujet le pape s'est-il arrêté lors de la bénédiction ?
La bénédiction Urbi et Orbi qui s'est achevée il y a une vingtaine de minutes, la bande de Gaza et l'Ukraine. La bande de Gaza est plus largement cette région que les chrétiens appellent la Terre Sainte. Il a renouvelé ce matin son appel sur 3 points clés, le pape. Accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, libération des otages israéliens et cessez-le-feu immédiat. Il a une pensée aussi, le pape, pour le Liban, dans une crise aggravée par les tensions à la frontière. Le Liban dont la vocation est d'être une terre de rencontre. Et puis à propos de l'Ukraine, et c'est important, le pape appelle à un échange général de prisonniers entre Russes et Ukrainiens. Important parce qu'au fond, ce sujet, c'est celui sur lequel le Vatican s'emploie depuis le début de la guerre, participant à des négociations qui avaient abouti notamment à Zaporijja. Et puis ensuite, le cardinal Zuppi de l'influente communauté Sant'Egidio a été chargé d'une mission qui était d'aider au retour d'enfants ukrainiens retenus en Russie, mission qui n'a pas donné grand-chose, hélas. Mais au fond, cela veut dire que le Vatican essaye de trouver un rôle dans d'éventuelles négociations plus larges dans ce conflit.
Et un autre sujet d'inquiétude ce matin, c'était l'état de santé du pape.
Eh bien, l'état de santé, il est plutôt bon. Alors, compte tenu de son âge, le souffle était correct pendant la messe. François a pris le temps, après la messe, dans son fauteuil roulant, de discuter, plaisanter avec quelques-uns des cardinaux présents et puis de faire longuement le tour de la place assis dans sa papa mobile. À la fin de cette matinée, ils étaient 60 000 personnes, 30 000 au départ, puis 60 000 à la fin. C'est le dernier chiffre que nous a donné le Vatican. Le marathon de Pâques s'achève plutôt bien pour François, après une absence vendredi soir lors du chemin de croix. Au milieu de cette longue semaine de cérémonie, Pascal, il avait manifestement besoin de souffler.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome pour France Culture. Une messe pascale sous haute protection. En France, 13 500 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés ce matin autour des lieux de culte chrétiens. Avec la menace terroriste qui plane depuis plusieurs jours, le ministre de l'Intérieur ne veut prendre aucun risque. Une personne a été arrêtée, soupçonnée de préparer un attentat dans une église. 1 € en plus par boîte de médicaments. 2 € par consultation et 4 par trajet en transport sanitaire. C'est aujourd'hui que la franchise médicale, c'est-à-dire le reste à charge, double. Alors techniquement, vous n'allez pas payer plus au moment d'acheter vos médicaments, mais vous serez moins remboursé a posteriori. Décision du gouvernement pour renflouer les caisses de l'État. Cette augmentation va permettre à la sécurité sociale d'économiser 800 millions d'euros. Karine Milsan est économiste, spécialiste des systèmes de santé.
Il y a un plafond qui est conservé, qui est que au maximum, les gens auront comme reste à charge 50 € par personne et par an. Donc ça limite forcément le gain qui est peut-être espéré. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation post-crise sanitaire, même si on a envie de l'oublier, elle a quand même perturbé fortement les finances. Donc à un moment où les dépenses de santé ont du mal à être complètement couvertes par les entrées d'argent, et également par un vieillissement de la population, des éléments plus structurels qui font que on sait que les dépenses de santé ne peuvent qu'augmenter, donc il faut pouvoir réallouer ces dépenses de santé. Maintenant, sur la partie égalité sociale, ces dépenses ne peuvent pas être prises en charge par les complémentaires santé, donc elle va peser de la même manière sur chaque foyer, quel que soit son statut. En revanche, elle ne pèsera pas de la même manière en fonction du niveau économique de chaque foyer.
Des propos recueillis par Manon Derdevet. 140 000 personnes pourraient être expulsées de leur logement dès demain. La trêve hivernale s'achève ce soir et les procédures d'expulsion vont reprendre dans la foulée. Elles pourraient être encore plus nombreuses et plus rapides que les années précédentes puisque la loi Kasbarian, adoptée en juin dernier, vient accélérer la procédure en cas de loyer impayé. Bonjour Tonino Serafini.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien spécialiste des questions de logement à Libération. Ces derniers jours, on a reçu plusieurs messages sur la boîte mail de la rédaction qui disait « Attention, il y a les locataires en difficulté, mais il y a aussi les propriétaires qui attendent d'être payés. » Parce qu'en fait, la fin de la trêve hivernale, c'est deux réalités qui se confrontent.
Oui, c'est la confrontation de deux réalités. Celle du bailleur qui se trouve dans une situation où le loyer n'est plus payé et qui aimerait bien récupérer son logement pour le louer à un autre locataire. Et puis, il y a la réalité du ménage qui se trouve dans ce logement. Et si le ménage reste... Alors que, à tout moment, il peut être expulsé par la force publique, c'est parce que souvent, il n'a pas d'alternative, il n'a pas de solution, il n'a pas un ailleurs où aller. Et c'est la raison pour laquelle on est parfois dans des situations de blocage là-dessus. Et il faut dire par ailleurs que le débat sur cette question des expulsions locatives a été largement caricaturé ces derniers temps. Premièrement, les impayés de loyer sont peu nombreux au regard du nombre de locataires. Hein. On a à peu près 12 millions de locataires en France. Les impayés, c'est à peu près 160 000 par an qui vont devant la justice. Donc c'est peu. Pourquoi ? Parce que la première chose que font les gens, c'est payer leur loyer parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans une situation d'insécurité extrême pour eux-mêmes et pour leur famille.
Vous soulignez que ces locataires ne sont pas coupables de leurs difficultés. Pourtant, ces derniers mois, le discours du gouvernement a entretenu un espèce de flou autour de l'indistinction entre les locataires en difficulté et les squatteurs.
Alors, effectivement, là, il y a une confusion qui est un peu surprenante parce que un squatteur est entré par effraction dans son logement. Un locataire qui est en situation d'impayé, il est entré en signant un bail. Ensuite, il a eu des difficultés qui font qu'il s'est retrouvé en situation d'impayé, mais c'est en aucun cas un squatteur. Il ne peut en aucun cas être assimilé à un squatteur. D'ailleurs, les lois sont claires. Hein. Lorsqu'un locataire se retrouve en situation d'impayé, il y a une procédure qui est engagée devant les tribunaux et toute cette affaire est entre les mains de la justice. Je tiens à rappeler une étude qui est très importante, qui a été menée il y a une dizaine d'années par l'ANIL, qui est une agence publique, qui a essayé de voir pourquoi les gens ne payaient pas leur loyer. Donc ils ont fait une étude sur 1800 locataires en difficulté dans une trentaine de départements. Et qu'est-ce qui a émergé de cette étude ? C'est que dans 70% des cas, les gens qui étaient en impayé de loyer, c'était suite à une baisse de leurs revenus, consécutive elle-même, à des accidents de la vie qui étaient des séparations, des divorces, maladies, chômage et parfois même des départs en retraite parce que lorsqu'on part à la retraite, évidemment le revenu qu'on avait avant et celui de retraité n'est plus du tout le même et lorsqu'un loyer était supportable avant, il ne l'est plus forcément une fois qu'on est retraité.
D'un point de vue économique, justement, l'inflation ralentit un petit peu là en ce mois de mars, mais le prix de la vie a quand même beaucoup augmenté. Qu'est-ce qu'on peut dire du contexte dans lequel arrive la fin de cette trêve ?
Ben, le contexte, c'est que vous savez que on a l'habitude de dire que les ménages ont des dépenses fixes, parmi lesquelles le loyer, l'électricité, etc., etc. Et puis elles ont ce qu'on appelle un reste à vivre. Ce qu'il leur reste pour vivre au quotidien. Et évidemment, en période d'inflation, ce reste à vivre est érodé par des hausses générales des prix qui frappent notamment les matières de première nécessité, les produits de première nécessité. Et c'est sûr que pour les ménages, c'est pour les ménages qui ont des budgets contraints, cette inflation sur les produits de première nécessité est un vrai problème pour elle.
Merci Tonino Serafini d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de logement. Attention, vigilance rouge aux crues en bord de Creuse. La rivière atteint les 6,7 mètres. En fin de matinée, une vingtaine de personnes ont dû être évacuées à cause du risque d'inondation. Et un kayakiste est toujours recherché en Haute-Vienne. Vigilance orange également en Charente, Charente-Maritime, Gironde et Dordogne. Dordogne. Partout ailleurs, il continue de pleuvoir, mais de manière raisonnable. Attention tout de même aux orages dans le nord et l'est, voire même jusqu'à Vichy. Les températures cet après-midi sont comprises entre 11 et 18 degrés.